Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous qui est devenu désormais, depuis 4 ans, familier à beaucoup, habituellement le premier mardi de chaque mois. Bienvenue donc pour cette 36e soirée d'éthique publique, la première de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris, dans cet auditorium remis à neuf durant l'été pour mieux vous accueillir. Il y a encore, je crois, quelques places de libre dans la salle 4 qui est déjà également bien remplie. Bienvenue notamment à ceux qui viennent pour la première fois dans ce lieu de réflexion et de débat. Je crois qu'il n'est pas très difficile de constater que face aux enjeux parfois compliqués dans les différentes réalités de nos vies, réalités sociales, éthiques, politiques, professionnel, international, ecclésial, eh bien que nous avons besoin de réfléchir et de nous éclairer mutuellement. C'est un enjeu intellectuel et spirituel qui nous tient à cœur ici au Centre Sèvres, prendre les moyens pour essayer de comprendre ce monde, nous tenir autant que cela est possible informés des questions qui traversent nos sociétés, nos vies. Important aussi d'avoir des espaces de dialogue simples et sans prétention, mais où une parole personnelle, libre et respectueuse d'autrui est possible, et essayer de voir comment, personnellement et collectivement, eh bien, il nous est possible de nous situer. Pas de conférence donc académique exhaustive sur un sujet, mais bien une invitation à nourrir notre réflexion et notre agir. Le point de départ, les familiers de ces soirées le savent bien, c'est la parole d'une, deux ou trois personnes qui vont partager simplement et en confiance comment ils perçoivent les enjeux de telle réalité. Leur parole n'est évidemment pas une parole définitive, mais une parole pour ouvrir à d'autres paroles, à d'autres réflexions. Le programme des soirées n'est pas fixé de manière définitive, n'est pas programmé pour toute l'année. Le programme s'élabore au fur et à mesure des mois pour être mieux à l'écoute de ce qui bouge, de ce qui pose question dans l'actualité des jours, mais aussi au-delà, je dirais, de la rumeur des vagues de surface. Le mois prochain, nous voudrions pouvoir apporter notre pierre à un débat important pour notre société en essayant de répondre à la question « Pourquoi le mariage homosexuel pose problème ?» Nous essaierons d'aborder ce sujet à partir de différentes dimensions, notamment sociales, anthropologiques, juridiques. Ce sera donc le mardi 6 novembre. Tout au long de l'année, les sujets de réflexion ne manqueront pas, bien évidemment, thématiques nationales ou internationales. Je rappelle qu'il est possible de s'inscrire à l'accueil ou au secrétariat si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre, et vous pourrez aussi, à la sortie des salles, vous inscrire pour recevoir la newsletter du Centre Sèvres en remplissant ce petit formulaire, la newsletter qui vous donnera donc toutes les informations concernant la vie du Centre. De même qu'il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée, de toutes les soirées précédentes d'ailleurs, sur le site internet du Centre Sèvres, nouveau site que je vous invite à aller découvrir, www.centresèvres.com. Enfin, n'hésitez pas à nous donner de bonnes idées pour faire connaître cette proposition des soirées d'éthique publique et continuer aussi à faire connaître ce lieu autour de vous. Ces soirées sont d'abord les vôtres. Et nous sommes d'ailleurs heureux de vous dire que ces soirées d'éthique seront à l'avenir retransmises en direct à Lyon, à l'espace Saint-Ignace, dans la Presqu'île, et à Bordeaux, à la paroisse Notre-Dame-des-Anges, où d'autres auditeurs seront rassemblés pour la soirée. Alors ce soir, c'est un peu une soirée test. Nous faisons des tests avec nos amis de Lyon et de Bordeaux, les compagnons jésuites qui sont là-bas, que je salue parce que je sais qu'ils sont en train de nous écouter en espérant que les tests seront concluants et que nous pourrons nous retrouver de manière habituelle chaque mois. Ce soir, pour notre première soirée d'éthique publique de cette année universitaire, nous voudrions tourner notre regard vers le Proche-Orient. Ce n'est pas la première fois que nous essayons, dans le cadre de ces soirées, de comprendre les évolutions de cette région et du monde arabo-musulman. Déjà en juin 2008, nous nous posions la question « Peut-on encore croire à la paix entre Israéliens et Palestiniens ?» En mars 2010, nous nous interrogions « Où va l'Iran ?» En novembre de la même année, c'était l'avenir des chrétiens d'Orient qui retenait notre attention. Et au début de cette année 2012, en janvier, nous avons voulu savoir ce qu'était devenu le printemps arabe. Malheureusement, pourrait-on dire, c'est souvent l'inquiétude qui nous conduit à regarder à nouveau vers cette région qui nous est chère pour de multiples raisons. Inquiétude que nous partageons avec les populations de la région. Le Proche-Orient semble en effet ne pouvoir échapper à la fatalité de la violence effroyable, comme en Syrie notamment, ou de l'instabilité politico-religieuse. Les sujets d'inquiétude, nous le savons, ne manquent pas. Le dossier iranien, l'avenir des minorités chrétiennes, le fondamentalisme musulman, l'impasse israélo-palestinienne, pour ne citer que quelques-uns de ces sujets d'inquiétude. Alors que le pape Benoît XVI vient de visiter le Liban pour donner un message d'encouragement aux habitants de la région et particulièrement aux chrétiens, eh bien, il nous apparaissait important de regarder les évolutions en cours. Que faut-il craindre au Proche-Orient? Que peut-on encore espérer? Pour nous aider à répondre à ces questions, je suis très heureux d'accueillir trois connaisseurs de cette région. D'abord, Monsieur Ignace Le Verrier, arabisant, vous êtes ancien diplomate et vous avez été en poste dans plusieurs pays, du Maghreb, du Mashrek. Vous avez été en poste notamment à Alger, à Riyad, à Amman, à Damas. Vous connaissez ainsi particulièrement bien la Syrie. Vous avez été en poste, je crois, notamment entre 2001 et 2007. Vous suivez de près l'actualité et la vie politique de ce pays et vous tenez le blog Un œil sur la Syrie sur le site du Monde, un site donc consacré à des études sur la Syrie ainsi qu'à une revue commentée de l'actualité syrienne, un blog particulièrement intéressant et bien informé. Vous avez contribué depuis plusieurs années à différentes publications sur le monde arabe. Je me contenterai de signaler l'article intitulé Syrie, scénario pour une sortie de crise, paru dans la revue Politique internationale il y a à peu près un an, et cet autre, Syrie, d'une société atomisée à une révolution organisée et citoyenne, dans la revue Monde émergent Afrique du Nord Moyen-Orient, paru à la Documentation française cette année. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous analyserez pour nous plus particulièrement la situation en Syrie que vous connaissez bien. Luc Balbon, tout à ma droite, au bout de la table, est également un grand connaisseur du monde arabe, arabisant lui aussi, journaliste à l'hebdomadaire Pèlerin du groupe Bayard, après avoir travaillé, je crois, au magazine Géo. Votre travail vous a conduit dans de très nombreux pays de ce monde arabo-musulman, entre autres Israël, la Palestine, l'Irak, l'Afghanistan, l'Iran, l'Algérie. Algérie que vous connaissez bien, vous êtes d'ailleurs correspondant du quotidien algérien francophone Liberté, sans parler du Liban, bien sûr, qui est particulièrement cher à votre cœur. Vous avez été notamment correspondant du quotidien La Croix et de Radio France Internationale à Beyrouth dans les années 90, et vous avez reçu en 2006, je m'en souviens bien, le prix Reporter d'Espoir pour des reportages en Palestine et en Égypte. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la région et sur ses habitants. Je ne ferai que citer l'ouvrage récent d'entretien avec Mgr Georges Kasmoussa, l'archevêque de Mossoul en Irak, intitulé « Jusqu'au bout » aux éditions Nouvelle Cité, paru en avril dernier. Vous rentrez il y a un jour, deux jours de Syrie. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous partager votre analyse. Enfin, Antoine Sfer, bien connu de beaucoup d'entre nous, politologue franco-libanais, vous avez commencé votre carrière dans le journalisme, d'abord au Liban, au quotidien francophone L'Orient le Jour, de 1968 à 1976, puis à La Croix et au Pèlerin après votre arrivée en France. En 1985, je crois, vous avez fondé les Cahiers de l'Orient, dont vous êtes toujours le directeur. Vous présidez également le Centre d'études et de réflexion sur le Proche-Orient, le CERPO, et vous enseignez les relations internationales au CELSA à Paris 4. Nous savons que vous êtes auteur de nombreux essais, nombreuses conférences sur le monde arabo-musulman. Je ne ferai que mentionner le dictionnaire du Moyen-Orient qui est paru sous votre direction l'an dernier aux éditions Bayard. Je sais qu'il y en a un qui est en préparation, qui est même en finition, sur, je crois, l'islam contre l'islam, qui va paraître dans quelques mois. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci donc à vous trois de nous partager eh bien, vos craintes et vos espérances pour le Proche-Orient. 15 minutes de parole chacun. Avant de pouvoir engager le débat avec tous, je vois qu'il y en a qui sourient, qui doutent de cela, mais je suis sûr qu'on peut y arriver. Alors, je vais laisser la parole d'abord à Monsieur Ignace Le Verrier.
Merci. Que faut-il craindre au Proche-Orient ? Que peut-on encore espérer ? Avant de répondre à cette double interrogation pour ce qui concerne la Syrie, je relève que, au moins au moment où cette double question vous a été proposée, les craintes paraissaient fondées, que faut-il craindre, tandis que les espoirs semblaient aléatoires et fragiles, que peut-on encore espérer ? Je comprends cette formulation puisque, s'agissant de la Syrie, et quel que soit le camp dans lequel on se positionne, celui du régime ou celui de la révolution, il est clair que le pire est déjà là et que le meilleur n'est pas certain. Et ce, quel que soit le contenu que l'on mette dans ces mots. Le pire pour les uns, c'est la présence actuelle en Syrie de centaines, voire de milliers de djihadistes fanatiques en provenance d'une grande variété de pays musulmans qui s'en prennent aux communautés non musulmanes, ou plus précisément non sunnites, et qui sont résolus à renverser le régime en place pour installer dans le pays un système islamique régi par la charia. Le meilleur pour les mêmes serait donc que l'interruption des facilités concédées à ces combattants par les États interventionnistes permettent au pouvoir de Bachar el-Assad de rétablir l'ordre républicain, de poursuivre les réformes engagées depuis son accession à la présidence et de conserver à la Syrie son système laïque. Le pire pour les autres, c'est que la mort attestée de plus de 35 000 personnes, la disparition de 75 000 autres, l'emprisonnement de plus de 200 000 ne soient suffisants ni pour dissuader le pouvoir en place de poursuivre sa politique de terreur, ni pour empêcher le régime de se maintenir à tout prix. Le meilleur pour eux serait donc que, avec ou sans aide extérieure, le régime s'écroule au plus vite de manière à stopper la radicalisation en cours du conflit et préserver la possibilité pour les civils, les politiques et les modérés de se faire entendre au détriment des militaires, des religieux et des radicaux. Le premier point de vue que certains d'entre vous partagent sans doute est évidemment celui du régime syrien. Le second, que d'autres partagent aussi vraisemblablement, est celui des révolutionnaires syriens. La rencontre de ce soir s'inscrivant dans un cycle de conférences et de débats centrés autour des questions d'éthique publique, donc de responsabilité, et plus précisément de responsabilité de chrétiens pour ceux d'entre nous qui le sont, j'aurais volontiers ajouté une troisième question à celle qui nous rassemble. Celle-ci, que devons-nous faire ? En général, on pose cette question au terme de la réflexion. Or, à mon sens, la première chose que nous ayons à faire, pour estimer à leur juste poids les craintes que nous devons avoir pour la Syrie et les espoirs que nous pouvons entretenir pour les Syriens, notre premier devoir, en quelque sorte, est de nous informer. Or, ce n'est pas le plus facile, car chez nous comme ailleurs, deux discours cherchent à convaincre l'opinion publique. Pour les uns, il est erroné de parler de révolution syrienne. Toute l'affaire se résume à un complot ou quelque chose de ce genre. Il est étourdi par les puissances occidentales pour des motifs politiques, économiques et stratégiques, contre un pays auquel ces mêmes puissances reprochent sa résistance à leurs projets dans la région et son refus de faire la paix avec l'État d'Israël. Ce complot est soutenu et financé par les États du Golfe, en particulier le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui peuvent difficilement être considérés comme des États démocratiques, et qui mettent à sa disposition leurs immenses moyens dans l'espoir de casser l'arc chiite mis en place au cours des dernières années entre Téhéran et le sud du Liban et de lui substituer un axe sunnite reliant Ankara à Riyad via Damas, Beyrouth, Amman et le Caire. Ce projet est encouragé par tout ce que la Syrie compte d'ennemis dans la région, à commencer par l'ancien Premier ministre libanais Saad al-Hariri et l'ancien ambassadeur saoudien aux États-Unis Bandar Ben Sultan. Il est finalement mis en œuvre par la force des armes, par les islamistes, des wahhabites, des salafistes, des terroristes en tout genre, venus par milliers de l'étranger, et il aboutira à livrer la Syrie comme la Tunisie, la Libye et l'Égypte aux frères musulmans et autres épigones de Ibn Taymiyyah. Vous aurez reconnu dans ce résumé, je pense, ce que dit le régime syrien depuis le début de l'année 2011, mais il n'est pas seul à le dire. Pour les autres, même inspirés par les soulèvements intervenus ailleurs, la révolution syrienne est un mouvement sui generis, authentiquement syrien, mené par des Syriens et pour les Syriens, contre un pouvoir en place dont ils ont enfin la possibilité de contester la légitimité. Ceux qui mènent ce combat sont des hommes et des femmes qui, après des décennies de soumission forcée à un pouvoir autoritaire, aspirent à être respectés, à pouvoir s'exprimer sans crainte d'être réprimés, à disposer des droits individuels et collectifs que leur reconnaît théoriquement la Constitution syrienne de 1973, à organiser leur vie comme il leur plaît, à apporter leur participation à la vie publique. Bref, même s'ils n'utilisent pas ce vocabulaire, ils veulent en réalité cesser d'être traités comme des sujets, et souvent comme des objets, pour être considérés comme de véritables citoyens. Ils savent, eux, que ce n'est ni pour les Américains, ni pour les Français, ni pour les Qataris, ni pour les Saoudiens, ni pour le gaz, ni pour le pétrole, ni même pour la grandeur et l'extension de l'islam, que depuis le 15 mars 2011, ils ont pris le risque, et continuent de le prendre, de sortir de chez eux. En dépit des abominations dont tout le monde ici a désormais entendu parler, mais qu'ils ont, eux, subies dans leur chair ou dans la personne de leurs proches, ils sont bien décidés à poursuivre leur mouvement jusqu'à la chute du régime. Ils se veulent d'abord et avant tout syriens. Ils ne sont pas plus naïfs que vous et moi. Ils savent que l'aide qui leur est promise est livrée avec réticence par les puissances occidentales ou qui leur est apportée spontanément par les combattants islamistes radicaux n'a rien de désintéressé. Mais engagés dans une révolution qu'ils ne voulaient pas voir évoluer ainsi, les Syriens nous demandent « Quand le bateau coule et que tu vas te noyer, refuses-tu la main qui passe à ta portée ?» Que faut-il craindre davantage en Syrie ? Le maintien en place du régime ou son renversement ? La victoire des révolutionnaires ou leur renoncement ? L'installation au pouvoir des frères musulmans ou leur marginalisation ? Et que peut-on espérer ? L'instauration d'une démocratie ? La mise en place d'un État respectueux de la diversité confessionnelle et de la pluralité ethnique ? Faute de temps, je laisserai ces questions au débat. Pour rappeler en quelques minutes ce qui me semble essentiel, pourquoi les Syriens ont décidé en mars 2011 de ne plus se laisser faire et de descendre dans les rues. Depuis des décennies, les Syriens ont toutes les raisons du monde de se révolter contre le régime de Hafez puis de Bachar el-Assad. Hafez el-Assad s'est emparé du pouvoir à la faveur d'une série de coups d'État militaires. Il s'est maintenu en place de 1970 à 2000 en tenant la population d'une poigne de fer, en achetant les opposants qu'il pouvait, en neutralisant ou en supprimant les autres. Il a édifié autour de lui un système dont il était la clé de voûte et dont le maître mot était l'allégeance. Ceux qui acceptaient de se soumettre étaient autorisés à se livrer à tous les trafics, mais ils devaient savoir que leurs faits et gestes, dûment enregistrés, seraient immédiatement exploités contre eux s'ils s'avisaient de regimber. Après les années de 178 à 82, marquées par une lutte à mort entre le régime et les frères musulmans, mais également par la confrontation entre ce que Michel Seurat a fort justement qualifié d'état de barbarie et la société dans son ensemble, Hafez al-Assad a abandonné la gestion de la population au service de renseignement. Beaucoup plus utile pour assurer la pérennité de son pouvoir que le parti Baas, réduit au rôle d'ascenseur social pour ses membres et d'agent de contrôle de la société au profit de la famille au pouvoir. Lorsque Bachar el-Assad est porté à la tête du système en juin 2000, des intellectuels signent une déclaration des 99 pour attirer son attention sur les attentes de la population. Vient ensuite, dans le même esprit, un communiqué des 1000. Profitant d'un instant de flottement à la tête de l'État, interprété comme un acquiescement et une incitation tacite à aller de l'avant, des dizaines de forums de discussion se créent à travers le pays, dans lequel les Syriens et des Syriennes de toutes origines commencent à s'exprimer et élaborer des projets pour la Syrie de l'avenir. Mais, comme vous le savez, ce printemps de Damas tourne court. Ses principaux animateurs sont mis en prison pour trouble à l'ordre public. Les autres ne renoncent pas à faire bouger les choses. Puisque le régime se refuse à ouvrir le champ politique pour se cantonner à des réformes économiques, comme s'il était possible de réformer un système étatique gangrené par la corruption en refusant aux citoyens le droit de regard et de participation, les Syriens tentent, lorsqu'ils peuvent, de proposer d'autres projets. Des comités de relance de la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme sont créés à travers le pays. En octobre 2005, ils diffusent une déclaration de Damas pour le changement national démocratique, à laquelle adhèrent l'ensemble des partis politiques d'opposition et un grand nombre d'opposants indépendants, arabes et kurdes. Mais en décembre 2007, les initiateurs et les cadres de cette plateforme politique, qui appelait pourtant de ses vœux une ouverture démocratique, contrôlée, c'est-à-dire contrôlée par le régime, progressive et pacifique, sont à leur tour appréhendés et condamnés à la prison. Débarrassés des perturbateurs, Bachar el-Assad entame des réformes économiques qu'il place sous le slogan d'économie sociale de marché. En réalité, le social n'a jamais été sa préoccupation. Oubliant que la devise du parti Baas est faite des mots « unité », « liberté » et « socialisme », Bachar el-Assad a abandonné à leur sort ceux qui constituaient jadis sa base populaire, les ouvriers et les paysans, pour s'appuyer sur les hommes d'affaires. Il attend de ceux auxquels il permet de s'enrichir en monopolisant les contrats et les ressources de l'État qu'ils fournissent au peuple les opportunités d'emploi qui contribueront à la paix sociale. Cette ouverture économique a un triple résultat. Certes, elle permet au pays de développer ses infrastructures et ses services, mais elle profite d'abord et avant tout aux proches de la famille présidentielle, au détriment de l'immense majorité de la population. En janvier 2011, près du tiers de la population syrienne vit sous le seuil de pauvreté. Le journaliste britannique Alan George, qui consacre un livre à la Syrie au cours de la première décennie du XXIe siècle, résume la situation dans son titre « Ni pain, ni liberté ». Entretenant avec la réalité un rapport étrange et maintenu dans ses illusions par un entourage fait de flatteurs et de profiteurs, Bachar el-Assad ne perçoit pas qu'il a perdu le soutien des Syriens qui, au début des années 2000, oubliant les conditions contestables de son accession au pouvoir, avaient placé en lui leurs espoirs. Certes, ceux qui ont quelque chose à perdre lui savent gré d'avoir préservé la stabilité interne et sa sécurité dans son environnement régional. Mais cela ne suffit pas à la majorité de la population qui, elle, n'a pas profité des ouvertures économiques confisquées par l'entourage présidentiel. Elle ne dispose d'aucun moyen de faire entendre son mécontentement, puisque la timide ouverture, amorcée aussi dans le domaine médiatique, n'a profité, là comme ailleurs, qu'à ceux qui disposaient des faveurs du chef de l'État, garantissant sous une forme nouvelle la perpétuation du discours et de la pensée unique. Certains tentent aussi de mettre au crédit de Bachar el-Assad la préservation du caractère laïque de l'État syrien. Il s'agit là encore d'une énorme supercherie. Le système syrien n'est pas moins confessionnel que le système libanais. Mais ce dernier a un gros avantage. Le confessionnalisme au Liban est clair, avoué et reconnu, inscrit dans les textes. Il n'est sans doute pas juste, mais il préserve contre l'arbitraire et il garantit un relatif équilibre entre les différentes communautés. En Syrie, en revanche, le confessionnalisme est dissimulé et honteux. C'est un sujet tabou. Il est partout mis en œuvre par le régime, dont une grande partie des choix et des décisions s'expliquent par des considérations ou des motivations confessionnelles, mais il est impossible de dénoncer ce genre de pratique. On court le risque de s'exposer à de sévères sanctions, les responsables n'hésitant pas à accuser et à condamner pour incitation au conflit confessionnel ceux qui osent en réalité dénoncer leur comportement. Lorsque les premières révolutions éclatent dans le monde arabe, les Syriens comprennent qu'il y a une opportunité. Puisque l'autoritarisme, l'arbitraire et la confiscation des libertés ne sont pas moindres chez eux qu'ailleurs, et puisque le blocage du système politique rend impossible l'ouverture progressive et contrôlée par le régime sollicité par les plus courageux d'entre eux, ils décident de passer à l'action. Ils sont encouragés par le mépris avec le chef de l'État, dont l'accès au pouvoir n'était pas précisément un sommet de démocratie, ose déclarer à la presse internationale en janvier 2011 que ses concitoyens, en fait ses sujets, ne sont pas mûrs pour la démocratie. Apparemment, il ne sait pas que c'est le parti dont il est le secrétaire régional qui a détruit en Syrie la démocratie, sans doute imparfaite mais réelle, qui avait prévalu dans le pays entre l'indépendance en 1946 et l'union avec l'Égypte en 1958. Deux mots pour finir. Compte tenu de la vigilance des Moukhabarat, il faudra près de 3 mois aux Syriens avant de répondre aux appels à la mobilisation et de descendre dans la rue. C'est la colère des habitants de Daraa, comme vous le savez, exaspérés par le traitement réservé à leurs enfants et par les insultes d'un cousin du chef de Bachar el-Assad, qui mettra le feu aux poudres. La pression était si forte que le régime n'a plus été en mesure de remettre en place le mur de la peur, édifié autour de la population au long de 48 années de règne de Baas, puis de la famille El-Assad. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, Monsieur Inès Le Verrier, de nous avoir aidé à entrer dans la réalité syrienne en nous rappelant notamment l'histoire de la période récente qui a conduit à la révolution et en nous présentant un peu le système Assad. J'imagine déjà les questions intéressantes qui ne manqueront pas de vous être posées tout à l'heure. Je laisse la parole à Luc Balbon qui pourra parler de la Syrie mais aussi plus largement de la situation du Moyen-Orient.
Ce soir, je voudrais vous faire partager les réflexions d'un reporter de terrain qui passe chaque année de longs séjours au Proche-Orient et dont la famille habite le nord du Liban, proche de la frontière syrienne, à 30 km de ce pays frappé par une guerre civile qui dure depuis presque 20 mois. Une guerre au lourd bilan, déjà plus de 20 000 morts, comme l'a rappelé M. Le Verrier. Avant d'aborder le thème de la soirée, que faut-il craindre au Proche-Orient, que peut-on espérer de ces révoltes arabes ? Juste une rectification. Je vous parlerai ici des mondes arabes, incluant aussi le Maghreb, parce que c'est là que tout a commencé. Un 17 décembre 2010, par le sacrifice, le suicide de Mohamed Bouazizi, un petit marchand ambulant illégal, désespéré de s'être fait confisquer sa marchandise par la police et d'être une fois de plus racketté par les agents de l'État tunisien. Qui aurait pu prévoir que ce geste de désespoir allait faire tomber un dictateur reconnu et protégé depuis 1987 par la communauté internationale, et notamment la France, qui voyait en cet autocrate un allié indéfectible et un protecteur de ses intérêts. Mohamed Bouazizi, 26 ans, un garçon totalement apolitique, dont le rêve absolu était de pouvoir s'acheter une voiture d'occasion afin de transporter plus facilement ses oranges et ses bananes qu'il vendait à la sauvette dans un bled reculé de Tunisie, Sidi Bouzid, pour faire vivre bien modestement sa mère et ses 5 frères et sœurs. Un souvenir de reportage. J'ai passé 2 jours, le 20 janvier 2011, 6 jours après le départ forcé de Ben Ali vers l'Arabie Saoudite, et je me rappelle de la réflexion d'un cousin du jeune martyr. À la télévision, me faisait-il remarquer, dans les bulletins météorologiques, nous n'étions jamais cités. Aujourd'hui, le monde entier défile dans notre ville. Et de fait, quand on arrivait à Sidi Bouzid, ce 20 janvier, il y avait toutes les télévisions qui étaient là. Pas seulement les télévisions européennes, mais il y avait CNN et toutes les grandes télévisions américaines. Quelle ironie du sort! Ainsi donc, ce n'étaient pas les avions de l'OTAN qui avaient eu raison de l'autocrate Ben Ali et du clan Trabelsi, mais un pauvre citoyen du centre de la Tunisie, une région sous-développée et oubliée du pouvoir. Qui aurait pu prévoir que Mohamed Bouazizi, ce jeune homme transparent, anonyme, s'agrégeant à la masse de ceux qu'on ne regarde jamais, allait par son sacrifice faire tomber non seulement 25 ans de dictature en Tunisie, mais provoquer par son suicide, un geste que l'islam réprouve, soit dit en passant, une cascade de révoltes dans le monde arabe, de l'Atlantique au Golfe Persique, Tunisie, Égypte, Libye, Yémen, Bahreïn, Syrie, ainsi que des mouvements sociaux qui ont obligé des pouvoirs forts absolus à proposer des réformes comme en Jordanie et au Maroc, et des soubresauts jusqu'en Arabie Saoudite. Bouazizi, la faiblesse qui a raison de la force brutale, une force aux mains nues qui va changer un monde que l'on pensait inamovible, figé. Permettez-moi de faire une digression, mais voilà une histoire qui n'est pas sans rappeler une autre histoire vieille de 2000 ans et qui se passe dans une étable d'une ville palestinienne, où un enfant aux mains nues allait aussi changer la face du monde. Mais revenons à notre thème. De ces révolutions arabes, que faut-il craindre, que peut-on espérer ? Thème de notre soirée. Je vous dirais qu'on peut tout craindre et tout espérer. Précisons toutefois que ce qui est le plus à craindre, c'est le présent, l'actuel. Mais que le futur, en revanche, peut nous réserver de bonnes surprises, des jours meilleurs, plus ouverts à la démocratie, même si le pire peut surgir et venir contredire mon relatif optimisme. Avant toute chose, s'il n'y a qu'une certitude à avoir, c'est bien celui de ne pas regretter ces dictateurs au pouvoir à vie. Durant des années, on a entendu en Occident, et notamment en France, que ces autocrates arabes, élus présidents de père en fils, constituaient le plus sécurisant des remparts contre la montée de l'islamisme, oubliant que ces régimes étouffaient aussi par la même occasion les démocrates et les partis laïcs au motif de lutter contre l'intégrisme religieux. En fait, si je résume les propos tenus par certains observateurs, les populations arabes avaient l'unique choix d'être dirigées soit par des dictateurs ou bien de tomber dans l'islam intégriste, la dictature ou la charia. Même si aujourd'hui le chaos et l'incertitude semblent gagner la rive sud de la Méditerranée et la partie de l'Orient arabe, même si les dégâts collatéraux se font sentir en Libye où la chute de Kadhafi a engendré la montée d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et l'annexion du Nord-Mali par des extrémistes terroristes, n'est-il pas préférable de voir émerger au grand jour ces groupes islamistes plutôt que de les savoir enfermés, contenus par la force et la répression, mais pouvant exploser à tout moment comme une bombe à retardement ou un volcan en éruption? Aujourd'hui, les vannes sont ouvertes. Les forces islamistes sont à visage découvert. Nous savons où elles se tiennent, où se tient l'ennemi. Alors bien sûr, voir ces hordes de barbus défilant au cri de « Allahu Akbar » dans les rues des grandes capitales arabes nous fait peur. Nous nous posons des questions angoissantes. Pourtant, je le répète, ces groupes avaient une force de nuisance bien plus grande quand ils étaient confinés dans la clandestinité. Aujourd'hui, où l'on sait qui ils sont et que leur stratégie est ouvertement dévoilée, démasqués, ils ne peuvent plus nous surprendre, ou du moins moins nous surprendre. Mais c'est vrai qu'ils nous ont surpris, ces barbus, car au tout début des révolutions, ces religieux étaient absents des manifestations. Avenue Bourguiba à Tunis, sur la place Tahrir, au Caire, le monde occidental voyait des jeunes réclamer la liberté, le droit à la justice tout court, à la justice sociale, le droit à l'individualité, au respect de la personne, au partage des richesses, à la fin des privilèges des familles dirigeantes. Pas de djellaba ni de barbe, ni de prières coraniques ostentatoires, pas de slogans haineux envers l'Occident, pas de drapeaux américains ou israéliens qui brûlent. Ces jeunes qui nettoyaient les rues, pelles et seaux à la main, ressemblaient à nos enfants, à vos enfants, même jeans, même baskets, même revendications, même chants, même slogans. Et puis, peu à peu, cette jeunesse, parce qu'inorganisée, sans chef, sans réel programme politique, a dû laisser la place à des groupes structurés. Or, dans ces pays, les seules formations d'opposition organisées n'étaient autres que les islamistes qui, opposants de toujours, attendaient leur heure, patiemment mais sûrement. Fallait-il s'en étonner? Sans doute pour celui qui ne connaît pas les mondes arabes, mais pour ceux qui ont vécu dans ces pays ou qui les ont approchés, non. L'ethnocentrisme occidental nous fait croire que nos systèmes démocratiques centralisés ou fédéralisés peuvent s'appliquer partout. Certes, notre démocratie, 50% plus 1%, a fait ses preuves et il n'est pas question de la remettre en cause. Mais n'oublions pas que ce fut long. N'oublions pas que 3 ans après notre révolution en 1789, nous avons traversé une période de terreur. Soyons modestes. Et puis bien plus tard, nous avons affronté la Restauration. N'oublions pas aussi que la démocratie est plurielle, qu'il en existe de différentes formes, qu'elle ne se réduit pas uniquement au seul modèle qui est le nôtre. Notre tort à nous, occidentaux, est toujours projeter nos systèmes d'État-nation centralisés ou fédéralisés sur des pays en devenir démocratiques. Dans les contrées arabes, sans véritable État depuis des siècles, il faut comprendre et admettre que le citoyen est d'abord d'un village, d'une famille, d'un clan, d'une tribu, d'une communauté, avant d'être d'une nation. Même les chrétiens arabes n'échappent pas à ce système clanico-familial. La famille, le clan, c'est l'assurance vieillesse et sa sécurité sociale. Exemple, moi je suis marié à une Libanaise, de confession maronite. Alors qu'en France, quand je parle de mon épouse, les questions fusent autour de qu'est-ce qu'elle fait ta femme, comment est-elle, est-elle jolie, est-elle grande? Au Liban, la première question que l'on me pose est de quelle famille elle est, fi ay aïla ou fi ay usra. Ah, la famille, le clan. Le village, c'est l'élément fondamental de la culture arabe. Or, dans ces pays dirigés par des familles au sens large du terme, les Saleh au Yémen, les Assad en Syrie, les Hassan en Irak, la famille royale au Maroc, le clan de l'Est chez les militaires en Algérie, le clan Ben Ali Trabelsi en Tunisie, le seul élément fédérateur n'était autre que l'islam. Lui seul pouvait transcender les frontières tribales et régionales. Rien d'étonnant donc que l'islam et les islamistes soient aujourd'hui aux commandes de ces pays débarrassés de leurs dictateurs. Et il ne faudra pas se dire surpris si demain les frères musulmans prennent le relais de la famille Assad à la tête de la Syrie. Reste que ces gouvernements islamistes constituent bien entendu un danger pour nous, Français, pour les Occidentaux, mais également un danger pour la majorité des citoyens arabes qui ne désirent que la paix, la liberté et la prospérité. Avoir un toit sur sa tête, pouvoir entretenir une famille, pouvoir envoyer ses enfants à l'école, être respecté dans son intimité, sont des désirs universels, en Occident comme en Orient. Il n'y a pas de relativisme culturel sur ces plans-là. Et voilà que les interrogations surgissent. Comment concevoir une démocratie avec des gens qui refusent tout pluralisme, tout métissage ou toute mixité, ces intégristes religieux? Comment faire fi des souffrances de nos frères chrétiens d'Orient qui, au Pakistan, en Arabie Saoudite, en Irak, vivent dans des conditions de sous-citoyens, sous le joug de lois injustes, tout juste tolérées, mais non reconnues comme des citoyens à part entière? Comment ne pas nous effrayer devant ce droit religieux qui remplace le droit d'une constitution civile? Comment ne pas craindre la primauté de la loi musulmane dans les affaires civiles? Comment ne pas s'émouvoir en voyant que les citoyens des minorités non musulmanes sont traités comme des étrangers? Comment ne pas trembler en pensant que sa fille puisse être considérée comme un simple complément de l'homme destiné à enfanter et ne pouvant se promener qu'accompagnée par un parent proche et drapé sous des kilos de tissu? La charia et ses excès qui frappent l'Arabie Saoudite, le Pakistan, les Émirats ou la Perse iranienne chiite et bien d'autres pays constituent un repoussoir pour nous, un choc des civilisations qui engendre une coupure radicale et réversible entre les deux rives de la Méditerranée et dont l'Europe du Sud aurait sans doute plus à pâtir que toute autre région du monde en raison de sa proximité avec les mondes musulmans. Cette crainte, on en mesure les effets actuels, les conséquences en Tunisie, manifestation des salafistes d'Ansar al-Sharia contre les femmes non voilées dans les universités, mais également contre les médias libéraux ou les festivals artistiques trop laïques. On en mesure aussi les effets néfastes en Libye, où l'ambassade américaine de Benghazi vient d'être violemment attaquée, entraînant la mort de 4 diplomates américains. C'est une crainte légitime que pourtant, tout en restant très prudent et en éveil, je relativiserai. Il y a quelques semaines, l'un de vos confrères jésuites m'a envoyé une vidéo de l'une de ses interventions. Pour Henri Boulade, jésuite égyptien, que l'on ne peut taxer d'islamophile et d'optimiste béat, le point positif de ces révolutions, c'est qu'aujourd'hui les islamistes ont pris le pouvoir et qu'ils vont vite s'apercevoir demain que ce n'est pas avec des versets du Coran que l'on dirige un pays. Ce point de vue, je le partage entièrement. Il est corroboré par des faits récents, comme le rejet à Benghazi en Libye, de citoyens qui ont eux-mêmes chassé, armes à la main, les islamistes d'une caserne du centre-ville. L'émergence d'une nouvelle catégorie de jeunes islamistes que j'ai croisés sur le terrain dans mon travail de reporter m'apporte également une certaine confiance en l'avenir, toute relative. Ces croyants musulmans que je rencontre portent un discours radicalement différent de celui de leurs aînés. Ils sont experts, techniciens, enseignants, économistes, ils sont médecins, mais aussi pères et mères de famille. Ils ont compris que le développement de leur pays ne pouvait reposer sur une loi religieuse et un livre, même sacré. Combien compris que les liens et la collaboration avec les non-musulmans, avec l'Europe, avec l'Occident, était une nécessité vitale pour vivre d'abord son... pour vivre. Savoir que vivre son islamité avec les musulmans, c'est possible, mais que pour vivre son arabité, on a besoin des autres, et on a besoin de l'Occident, et on a besoin des non-musulmans. Ces musulmans nourris de mondialisation, d'Internet et de chaînes câblées savent que l'Occident est un partenaire indispensable dans le développement des économies de leur pays et que la paix sociale passe par une amélioration des conditions de vie, augmentation du niveau de vie, éradication du chômage, travail pour les jeunes diplômés. Voilà ce qui me fait espérer. En fait, ce que je crains aujourd'hui, tout autant que les islamistes au pouvoir, c'est l'intervention des autres. Les manipulations géopoliticiennes des puissances étrangères dans ces changements qui se produisent au Maghreb et au Mashrek arabe. À l'instar de ce qui s'est produit en Irak en 2003 avec l'invasion américaine et occidentale, qui avait de la sympathie pour Saddam Hussein ? Personne. Mais fallait-il détruire un pays pour tuer un dictateur ? Qu'est-ce que l'Irak aujourd'hui, après 8 ans d'occupation américaine ? 3 pays, un pays kurde au nord, un pays sunnite au centre, je résume, hein, et un chiite au centre, au sud, pardon, avec des tensions communautaires tous les jours entre les clans chiites et sunnites et kurdes et des morts au quotidien. On a remplacé un dictateur par des centaines d'autres bien pires encore, me disait Mgr Kasmoussa, irakien et archevêque de Mossoul. Et dire que Bush et ses sbires avaient promis aux Irakiens la démocratie et l'opulence dans un grand Proche-Orient unifié. L'objectif est tout à fait raté. L'intervention des grandes puissances dominantes aux économies libérales est un danger aussi pervers que l'arrivée des islamistes, moins visibles sans doute, les puissances occidentales, mais sans doute tout aussi dangereuses. Du reste, ces deux extrêmes, République islamique et puissance libérale, ont des intérêts communs. Un Proche-Orient tribalisé, découpé en petits morceaux, en petits royaumes, n'est-il pas plus malléable, plus contrôlable, plus exploitable pour les extrémistes de tous bords comme pour les néoconservateurs de tous les pays ? Le Proche-Orient éclaté, je pense ici à Georges Corme, c'est le titre d'un de ses livres. Or, ce Proche-Orient est aujourd'hui menacé d'explosion. Il n'est que de regarder. Nous venons de parler de l'Irak. 3 partis, sunnites, chiites et kurdes. Mais regardons aussi la Palestine, 2 Palestines. Gaza, appartenant aux islamistes du Hamas, et la Cisjordanie, la Palestine du Fatah. Le Liban voisin est occupé en son sud par une milice, le Hezbollah, pro-iranien, qui ne représente absolument pas l'État. Quant à la Syrie, n'est-elle pas en train de suivre le même chemin ? Un État à la route à l'ouest, un kurde au nord, oui, 2 minutes, c'est bon, et un sunnite au centre. Encore une fois, tous ces découpages en clans antagonistes, manipulés par les grandes puissances qui défendent leurs intérêts, me font aussi peur que les défilés théâtraux des barbus islamistes. Il est temps également de stigmatiser ce qu'on a appelé au Liban la guerre des autres. Qui se bat en Syrie par Syriens interposés ? Les Saoudiens, les Émiratis et leurs alliés occidentaux face à l'Iran et leurs alliés russes et chinois. Là, l'avenir me paraît incertain, ou du moins suspendu à des questions angoissantes. Que se passera-t-il en novembre prochain si Mitt Romney est élu président aux États-Unis ? Les prises de position pro-israéliennes du candidat républicain américain et l'engagement affiché à ses côtés du Premier ministre Netanyahou ne vont-ils pas provoquer un repli du monde arabe et faire monter l'islamisme dans les rues ? Je me souviens d'une rencontre que j'ai faite avec la prix Nobel de la paix iranienne Shirin Ebadi, ici en France. Elle m'avait dit « Je suis contre ce régime des ayatollahs iraniens. Ils m'ont tout pris. Ils ont désagrégé ma famille. Mon mari est emprisonné. J'ai été emprisonné et torturé. Mais si demain, un pays occidental, la France ou l'Amérique attaque l'Iran, je reviens dans mon pays et je défends mon pays. » C'est ce qu'elle m'avait dit à Nantes il y a 2 ans, lorsque je l'avais interviewée. Plus grave encore, suite à cette élection américaine, Israël frappera-t-elle l'Iran ? Peut-on alors imaginer ce qui pourrait se passer si cela devenait une réalité, l'embrasement qui s'ensuivrait ? Ce choc qu'on a su éviter jusqu'à maintenant deviendrait sans aucun doute réalité et accélérerait là encore l'émergence de groupes islamistes, un cancer pour les démocraties. Voilà quelles sont mes craintes. Et j'en termine. Pourtant, comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, je crois en l'avenir et mise sur le futur. Ce qui vient de se produire dans ce monde arabe est porteur d'espoir. Ces révolutions ont montré que la jeune génération est entrée de plein pied dans l'ère moderne. Ces jeunes n'ont plus envie de se laisser manipuler. Et même si cette démocratie prend une autre forme que la nôtre, on y retrouve les mêmes désirs. Liberté, justice, parité, égalité. De l'Atlantique au Golfe arabe, ces jeunes en révolte n'expriment-ils pas les mêmes désirs que nos jeunes à nous, en Occident? Connectés aux mêmes réseaux sociaux, regardant les mêmes chaînes, ils appartiennent à la modernité, les mêmes rêves que les Européens et les Américains. Certes, ils se sont fait confisquer leur révolution, mais cela ne durera pas. Revenir en arrière aujourd'hui me paraît totalement impossible. Là résident toutes mes espérances, tout en restant modeste, car on s'est souvent trompé. Merci.
Merci beaucoup, Luc. Je reconnais bien là ta foi dans l'avenir. Merci de nous avoir aussi, je crois que c'est important, rappeler l'origine du printemps arabe et cette figure de ce jeune Bouazizi en Tunisie. Dans la richesse de tout ce que tu as dit, il y a notamment une chose parmi beaucoup d'autres qui m'ont beaucoup intéressé et sur laquelle on aura sûrement l'occasion de revenir, c'est la force de nuisance plus grande des islamistes quand ils sont dans la clandestinité plutôt qu'en plein jour. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce point qui me semble important dans le débat. Merci en tout cas, Luc. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Antoine.
Bonsoir à toutes et à tous. Tout a été dit sur les faits. On peut ne pas être d'accord. Je suis quand même admiratif de, j'allais dire, des certitudes. Sans doute 19 ans passés chez les jésuites m'ont appris le doute. Et j'ai très peur de m'exprimer dans l'immédiateté sans plus cette distance qu'on peut avoir. Ce que je crains au Proche-Orient, c'est tous mes rêves d'adolescent qui sont en train de tomber, c'est-à-dire une citoyenneté arabe avec la même culture, le même devenir, et surtout une tendance vers la laïcité. Et je l'ai espéré même en pleine guerre du Liban, pays d'où je viens. Et vois-tu, mon cher Luc, toi tu as épousé une Libanaise, moi j'ai épousé une Corse. Et arrivé en Corse, tout le monde me parlait de la famille, du clan. Donc je ne me sentais pas du tout dépaysé. Et pourtant il y a un peuple corse, comme il y a un peuple libanais, qui aspire à une citoyenneté réelle. Et sans doute, ces rêves sont tombés, parce que tu as pris l'exemple de l'Irak, tu as pris l'exemple de la Palestine, tu pourrais dire aussi que la partition existe sur le terrain au Liban. Certes, les Occidentaux arrivent à Beyrouth et s'y arrêtent. Et à Beyrouth, on s'embrasse sur la bouche pour signer un contrat. Mais où dorment les gens, chacun chez soi. Ces rêves d'adolescent d'une citoyenneté laïque, nous y avons cru. Nous sommes sans doute la dernière génération à l'avoir vécu. L'anecdote que je raconte souvent, c'est que c'est vrai que au Liban, on avait du mal, à l'âge de 15 ans, à draguer les filles, à les amener sur les terrasses de café, ça ne se faisait pas. C'était entacher sa réputation. Alors on a créé des lieux de rencontre, nous draguions le vendredi à la mosquée, le samedi à la synagogue et le dimanche à l'église. Mais au-delà de l'anecdote, ça nous obligeait à apprendre ce à quoi croyait l'autre. Ce qui fait qu'à la sortie de la mosquée, de la synagogue et de l'église, L'autre n'était plus un étranger. L'autre faisait partie de nous-mêmes. Les camarades musulmans assistaient à la messe. Vous remarquerez que je porte ma montre, le cadran tourné vers l'intérieur, parce que quand on était à la messe, on regardait discrètement la montre, comme ça, et on ne se faisait pas engueuler par nos pères, jésuites. Mais on avait des camarades musulmans qui assistaient parce qu'il y avait cette volonté du droit à la ressemblance, et non pas cette revendication du droit à la différence. Je crois que c'est fondamental. Depuis le début de ce débat, mais depuis janvier 2011, j'entends parler de démocratie. Démocratie, en grec, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Sur la base de cette définition, y a-t-il un seul État démocratique dans le monde ? En Occident, on a réduit la démocratie à la loi du nombre. Il y a une majorité, une opposition. En devenant français, moi, je n'ai pas choisi d'être démocrate et je ne le suis pas. J'ai choisi d'être républicain. J'ai choisi d'être responsable de la chose publique, de la res publica. Moi, je viens d'un pays, Luc vient de le dire, il y a 18 communautés religieuses qui ont vécu pendant 400 ans comme des sujets de l'Empire ottoman, sans avoir la conviction d'appartenir à un vaste empire, non. Puisque celui qui était responsable d'eux aux yeux de la sublime porte, c'était le dignitaire religieux. Pour les maronites, le patriarche, pour les grecs catholiques également, enfin, pour les 6 communautés chrétiennes rattachées à Rome, et les 5 communautés chrétiennes séparées de Rome, etc., et les 4 religions, communautés musulmanes, les juifs et les protestants qui n'étaient pas comptabilisés comme chrétiens, tout cela fait que il y avait une sorte de tradition que le religieux, qui non seulement était responsable du statut personnel, était également responsable du statut juridique et social de la communauté. Et il se trouve qu'il y a une des communautés qui a un taux de natalité de 7,2. Si j'étais démocrate obéissant à la loi du nombre, tous les démographes nous disent que cette communauté aura la majorité absolue dans un siècle. Ben, autant éviter un siècle de massacres, de tueries, de combats intercommunautaires ou intracommunautaires, qu'on les amène ici et qu'on en fasse des citoyens. Moi, j'ai voulu faire de ma fille une citoyenne. Quand elle est née en 70, j'étais fier qu'à Martaban, j'ai couru pour l'inscrire à l'état civil. Et le préposé me dit, mais il me manque un papier. Je dis, mais non, voilà le papier du chirurgien qui l'a accouché. Il me dit, mais il me manque un papier. Es-tu chrétien ou musulman ? Il faut dire qu'à 20 ans, j'étais légèrement trotskiste quand même. Donc je lui dis, ça ne le regardait pas. Il me dit, mais arrête de m'engueuler, c'est pas moi qui fais la loi. Si tu es chrétien, il me faut ton certificat de baptême. Et si tu es musulman, il me faut le certificat du cadi, du juge, comme quoi ta fille est bien née. Je dis, enfin, il n'y était pas, moi j'y étais. Il ne pouvait rien faire. Donc ma fille, avant même de naître, était déjà citoyenne communautaire. J'ai choisi d'être républicain, responsable de la chose publique, ce qui est le sens du mot citoyen, co-responsable de la cité. Et cette co-responsabilité me rendait obligatoirement l'égal de l'autre. Déjà, c'est un pas énorme. Et en même temps, elle me rendait solidaire de l'autre. Précisément l'autre. Aujourd'hui, on en a peur. Pour des raisons salafistes, islamistes, etc. Moi, je constate qu'en Égypte, entre les élections législatives de février et les élections présidentielles de de juin, mai-juin, les islamistes et les salafistes ont perdu 25% de leur suffrage. Donc, laissons-les en perdre encore un peu tant qu'ils sont au pouvoir. M. Morsi ne peut pas continuer à faire le grand écart. M. Djebali en Tunisie aura obligatoirement un jour à prendre des décisions, non pas à condamner comme ça s'est déroulé, et ça a été rectifié, la femme violée parce qu'elle avait fait une atteinte, responsable d'une atteinte aux mœurs, mais à condamner les policiers qui l'ont violée, ce qui est en train de se faire actuellement. Ce que je crains, c'est le morcellement du Proche-Orient, l'Irak, la Palestine, le Liban, demain la Syrie, parce qu'il n'y aura pas seulement trois États, un État druze, un État alaouite, une enclave sunnite, mais il y aura également un État kurde, etc., qui rejoindra peut-être le Kurdistan irakien. Tout cela me fait craindre, et ça me rappelle ce qu'écrivait le premier ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël en 1954 dans ce mémoire, Moshe Charette, qui disait que le devenir de l'État d'Israël dans cette région ne pouvait se faire que dans le cadre d'entités, il ne parlait pas d'État, d'entités communautaires, ethniques ou religieuses. On y est. On y est avec cette peur de l'autre. L'autre dont on ignore tout. Aujourd'hui, quand on parle avec les jeunes musulmans de France, ils ne savent même pas ce qu'est l'islam. Ils n'ont jamais lu le Coran, puisqu'ils ne lisent pas l'arabe. Et donc, ils ont une double déstructuration, la déstructuration à la fois identitaire, qui fait suite à une déstructuration familiale, puisqu'ils ont démissionné les parents. On est réellement dans une déstructuration identitaire. Ils ne savent plus qui ils sont. Leurs parents ou leurs grands-parents n'ont pas voulu leur apprendre l'arabe, n'ont pas voulu leur parler de leurs origines tunisiennes, algériennes ou marocaines. Ils ont voulu qu'ils soient intégrés. Ça aurait été très bien s'ils étaient intégrés. On les aurait oubliés. Mais là, avec la poussée de l'islam, c'est parce que tout simplement, ils ont cherché à se restructurer autour d'un tronc commun qui est l'islam, devenu aujourd'hui de plus en plus radical. Cela a toujours existé dans l'islam, depuis le début de l'islam, mais également dans les autres religions. Et comme nous avons choisi d'être républicains, donc citoyens, solidaires et égaux. Il nous manquait un socle à la table. On a choisi la laïcité. Cette laïcité qui est avant tout le droit de croire ou de ne pas croire, donc qui reconnaît l'agnosticisme et l'athéisme comme des démarches de recherche et de foi, et qui fait la différence entre la foi et la religion. La foi est une démarche intrinsèquement intime, viscéralement intime. La religion, c'est une organisation communautaire qui réunit une communauté dont les membres partagent ou croient partager la même foi. Qui dit communauté, qui dit organisation temporelle, comme la religion, ben, implique le pouvoir. La foi est totalement différente. Et c'est pour ça que la laïcité englobe là où, précisément, les religions censées relier délient les liens sociaux. On a eu un siècle de guerre de religion en France. Aujourd'hui, on assiste à une guerre de religion intra-musulmane entre les chiites et les sunnites, qui, à partir d'un même socle, sont deux religions excessivement différentes. Oui, je crains également pour les chrétiens en Orient. Arrêtez de les appeler, s'il vous plaît, les chrétiens d'Orient, comme si on parlait des crevettes à l'armoricaine. Il n'y a de chrétiens, pardonnez-moi de vous le dire, qu'en Orient. Vous êtes des chrétiens occidentaux, d'Occident, issus d'hérétiques ariens. Enfin, depuis la Seconde Guerre mondiale, on ne dit plus arien, on dit arianiste. Il y a un proverbe en arabe qui dit « Tu peux perdre la vue, il y aura toujours une main secourable qui te ramènera chez toi, mais si tu perds tes racines, tu ressembleras à cet arbre sec qui n'en finit pas de mourir. N'oubliez pas vos racines. » On a parlé de l'Irak, il y a trois états en un, c'est vrai. Chiites, sunnites, kurdes. Où sont passés les chrétiens? Parce qu'ils étaient dans tout le pays, parce qu'ils n'avaient pas de territoire. Ils ont émigré. Certains ont été tués. Ceux qui avaient de l'argent ont émigré vers des horizons lointains. D'autres sont dans les pays voisins, Jordanie, Syrie, Liban. Et c'est toujours le même cas. Mais eux ont l'habitude, pardonnez-moi de dire ça, ce terme, le destin des chrétiens en Orient a toujours été, quelque part, de vivre au bord du précipice, en passant leur vie à lutter pour ne pas y sombrer. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est aussi, quelque part, leur témoignage. Je crains que les guerres intracommunautaires ne se rallument. Comment les chiites et les sunnites, cette interminable guerre qui dure depuis le début de l'islam. Je crains les puissances occidentales qui n'ont rien compris. On a été en Libye, on a sauvé la population de Benghazi, c'est tout à notre honneur. On a laissé mourir la population de Sirte, 150 000 morts, c'est tout à notre déshonneur. On a éclaté le pays et aujourd'hui, on cherche à faire des affaires avec les nouveaux dirigeants. Ça, c'est plus dangereux. On a inventé aujourd'hui le devoir d'ingérence sous couvert d'humanitaire. Moi, je veux bien qu'on révolutionne le droit public international à condition de le remplacer par un vrai système. Est-ce qu'on accepterait qu'un pays du Sud exerce ce devoir d'ingérence vers un pays du Nord? Je n'ai pas de réponse. Mais j'ai des craintes. Je crois sincèrement qu'il y a beaucoup d'espoir. Mais en presque 20 mois maintenant de printemps arabe qui commence à ressembler à des hivers islamistes, ne serait-ce que pour un temps, et j'espère que le temps, ce sera le temps d'une saison, on n'a pas parlé une seule fois de l'école. L'autre, on ne le découvre pas à l'âge adulte, on le découvre à l'école. Et les dictateurs, quels qu'ils soient, ne vont pas favoriser l'école pour tous et nourrir le serpent qui va venir les mordre un jour ou l'autre. Car c'est en Tunisie les lettrés, les sachants qui ont commencé la révolution. En Égypte également, en Syrie aussi, même si par la suite ces révolutions ont été confisquées. À aucun moment à l'école, aujourd'hui, on enseigne l'autre. Et lorsqu'on s'est allié, nous, occidentaux, non pas avec le républicain Nasser, mais avec l'Arabie saoudite, il était déjà trop tard en 1957, puisque les Saoudiens, non pas à force d'arguments, mais à force d'arguments sonnants et trébuchants, avaient acheté les grandes mosquées dans les capitales arabes, avaient installé leurs hommes, avaient envoyé leurs imams en France. Et nous payons aujourd'hui cette alliance stratégique contre nature. J'espère que la France, en particulier, elle est belle ta montre, la France en particulier retrouvera le chemin qui fut le sien. C'est-à-dire que la puissance de la France dans cette région du monde a toujours été le pouvoir de parler avec tout le monde et d'être une sorte de passerelle dans les contentieux, les guerres ou les conflits. Souvenez-vous d'un ministre d'affaires étrangères qui s'appelait Hervé de Charette et qui a fait la navette pendant plus d'un mois entre Tel Aviv, Jérusalem et Beyrouth. Et on se gossait en disant, le pauvre, il va arriver à rien. Si, il est arrivé à arrêter l'hémorragie. Il a obtenu d'Israël l'arrêt des combats, le cessez-le-feu. Aujourd'hui, il faut que l'hémorragie s'arrête en Syrie d'une manière ou d'une autre. Il faut que l'hémorragie s'arrête en Libye. Et la France a vocation à parler avec tout le monde. Je crains aujourd'hui que la France ne parle plus avec tout le monde, ce qui est le cas depuis au moins 6 ans. Et j'espère qu'elle retrouvera la parole avec tout le monde. En tout cas, j'ai appris une chose au bout de ces 2 ans, c'est que le droit sans la force est toujours impuissant, mais que la force sans le droit est toujours injuste. Je vous remercie.
Merci beaucoup Antoine de nous avoir partagé la chute de tes rêves et aussi un certain nombre de craintes sur la citoyenneté, sur le morcellement du monde arabe, sur la peur de l'autre, sur la situation des chrétiens en Orient, sur les guerres intracommunautaires, sur aussi la crainte d'intervention des puissances occidentales. Je retiens dans les perspectives pour l'avenir cette importance de parler avec tout le monde. Nous allons avoir le temps maintenant de parler ensemble pour essayer de reprendre tel ou tel point, peut-être de demander à nos invités de pouvoir aller un peu plus loin sur telle ou telle question, tel ou tel point. Alors il y a 2 salles. On va d'abord prendre un certain nombre de questions dans cette salle. Je pense qu'il y a un micro qui... Où est le micro ? Le micro est là et il va bientôt... Circuler. Voilà, alors je vais prendre peut-être plusieurs questions ou convictions. N'hésitez pas à vous manifester si vous désirez intervenir. Voilà, monsieur. Voilà.
Oui, vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Bonsoir et merci beaucoup. Merci aux conférenciers parce que c'était 3 discours très différents mais très complémentaires. Il y a une question que je voudrais poser à M. Leverrier et à M. Balbon. C'est au sujet, bon, cette vision extrêmement positive et optimiste finalement, comme quoi les islamistes, une fois au pouvoir, montrent leur incapacité à gouverner et s'estomperont d'eux-mêmes. Et le terrorisme donc s'estompera de la même façon puisqu'ils ne sont plus au grand jour. Mais il y a quand même une question qui me démange. Quid de l'Iran ? 1979, Khomeini arrive au pouvoir et finalement l'Iran va devenir le tremplin numéro 1 du terrorisme islamiste dans le monde, notamment à Paris, 1986, à plusieurs reprises. Donc est-ce que, ma question elle est la suivante, est-ce que votre optimisme n'est pas contredit par la révolution iranienne ?
Alors, on va prendre plusieurs questions ou interventions. Il y en a une juste derrière.
Oui, bonsoir. Moi, je rebondirai juste à ce que demande mon voisin en vous demandant quid d'Israël également et de ses multiples agressions, notamment vers le Liban, de son non-respect de bon nombre de résolutions. Et j'en profiterai juste également pour poser une question à M. Balbon. Vous avez semblé, monsieur, stigmatiser la population du sud Liban. C'est une population que je connais également, car je suis marié à une musulmane du sud Liban. Je ne je m'y sens entièrement épanoui au sein de cette famille. Et j'ai trouvé déplacé justement que vous stigmatisiez en pointant du doigt la résistance libanaise, puisque vous la pointiez du doigt, cette partie de la population qui pour moi, fait front aux agressions.
Merci. Peut-être une troisième question ou intervention dans cette salle. Oui, devant, tout devant.
Merci, Serge Klebnikov. Je suis arrivé pour la première fois au Proche-Orient en 1982, il y a 30 ans. Et depuis, je n'ai cessé d'y retourner, pour des raisons personnelles ou professionnelles, avec une question qui prend de plus en plus de place dans mon esprit. Monsieur Balmont, vous avez peut-être commencé à répondre à ma question. Elle est très claire. Est-ce que quelque part, et ce n'est pas en étant provoquant, il n'y a pas un danger de paix dans cette région? Je dis bien un danger de paix. Merci.
Merci beaucoup. Alors, on va en rester là pour l'instant. Je vais donner la parole à Monsieur Leverrier, puis Monsieur Balbon, Antoine Sfer. Je crois que les questions intéressent nos trois invités. Voilà.
Bon, pour ce qui concerne la question de l'Iran, je crois qu'il est toujours difficile de faire des comparaisons d'un pays à un autre, parce qu'on peut effectivement considérer ce que vous avez dit, mais si on prend l'exemple de la Turquie, on a un exemple inverse, c'est-à-dire des islamistes qui sont arrivés à la présidence de la République et à la tête du gouvernement par des élections, et qui apparemment s'en sortent pas mal. Donc, il y a des exemples, effectivement, comme celui de l'Iran, où on a vu cette dérive. Mais est-ce qu'elle est due à l'islam ou est-ce qu'elle est due à la volonté de puissance des Iraniens, des Perses, qui s'appuient pour cela sur la capacité de mobilisation de l'islam chiite? Bon, c'est un débat, je crois, qui est lancé. Donc c'est difficile d'avoir une réponse définitive sur une telle question. Je crois qu'il y a autant de situations qu'il y a de pays. Et pour ce qui concerne la Syrie, puisque c'est celui que je connais à peu près un peu mieux que les autres, je crois qu'il y a effectivement un risque, mais que ce risque va aller croissant au fur et à mesure que la révolution avance. Parce que ce qui fait la caractéristique de la révolution actuelle en Syrie par rapport à toutes les autres, c'est que la révolution tunisienne s'est résolue en un mois, si on peut dire résolue. La révolution égyptienne a duré à peine plus longtemps. La libyenne, un peu plus. Celle de la Syrie dure depuis un an et demi et plus. Ce qui veut dire que les questions qui n'étaient pas posées avant pour les Tunisiens et pour les Libyens sont actuellement traitées par les Syriens. C'est-à-dire qu'au sein même de la révolution, il y a un débat, il y a une réflexion. Je vous ai dit que quand les Syriens sont sortis, bon, c'était pas pour la démocratie qu'ils sortaient, c'était pour le respect, ils en avaient marre d'être humiliés, ils en avaient assez d'être méprisés par les moukhabalas, traités comme des moins que rien, etc. Ils ont voulu revendiquer le droit à la justice, à la liberté. Mais au fur et à mesure que la révolution s'est développée, eux-mêmes, en discutant entre eux, avec l'opposition de l'extérieur et à l'opposition de l'intérieur, ont commencé à élaborer des projets. Et on a maintenant des projets qui sont des projets de type démocratique. Alors ce n'est pas évidemment la démocratie comme on la connaît chez nous, mais c'est un pas pour eux très clair vers la démocratie. Donc je crois qu'il y a des exemples différents, il y a des évolutions différentes en fonction des pays. Enfin c'est ma réponse à votre question.
Merci. Luc.
Je voudrais d'abord répondre à monsieur. Je m'excuse si vous avez trouvé que je stigmatisais le sud de l'Iran. Et
du Liban.
Du Liban, pardon. Et la révolution et le Hezbollah. J'ai des amis au Hezbollah et je me sens très bien aussi au sud Liban. Je me pose simplement la question, pourquoi le Hezbollah n'intègre pas l'armée libanaise et ne rend pas les armes? Voilà, c'est tout. À partir de là, je rejoins le général Aoun quand il dit qu'il y a 30% de chiites au Liban, ils ne sont pas tous du Hezbollah, mais il faut discuter avec le Hezbollah pour en faire des citoyens libanais et qu'on ne peut pas se priver d'une citoyenneté libanaise en se coupant de toute cette partie du Hezbollah qui, effectivement, a été courageuse, résistante et a forcé en 2001, je crois, Israël à quitter le pays. Je me souviens en 1997, quand j'étais correspondant de RFI et et de la croix, le fils de Cheikh Nasrallah avait été tué dans un affrontement avec un commando israélien au sud du Liban, à Ben Ishbael. Et j'avais été aux cérémonies de deuil. Et j'avais trouvé absolument courageux de voir qu'un chef libanais, Hezbollah, pouvait envoyer son fils au front, alors que la plupart des enfants des autres chefs des communautés libanaises étaient en Europe à étudier dans les universités, ou simplement à travailler, ou simplement à vivre sur l'argent de papa. C'est très clair, je ne suis pas contre le Hezbollah. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a la question des armes qui se pose, et si on veut faire un Liban citoyen, un Liban libanais, il faut absolument que cette force rejoigne l'armée. Pour répondre à l'Iran, je crois qu'effectivement, c'est le premier monsieur qui posait cette question, je crois que le pouvoir iranien est quelque chose de complètement différent de la population. J'ai été plusieurs fois en Iran. C'est un pays où les jeunes, notamment, sont profondément anti-religieux. Ils détestent leur pouvoir. Les religieux, ils les appellent un mot arabe, les douleb, les pneus, en référence au turban qu'ils portent. Je pense que le pouvoir est complètement différent du peuple iranien et que le peuple iranien est un peuple absolument qui a 6000 ans ou 7000 ans de culture et qui aujourd'hui produit des cinéastes, produit des dramaturges, produit des écrivains et où il y a une vraie culture.
Antoine ?
Mais écoutez, j'en ai marre d'entendre tout le monde est libre, tout le monde est gentil. En Turquie, les islamistes qu'on dit des islamistes modérés, qu'on essaye de m'expliquer ce que ça veut dire. Être islamiste est celui qui veut réislamiser ou islamiser le champ social, le champ judiciaire, le champ administratif, le champ politique et le champ économique dans lequel il vit. Monsieur Erdogan, contrairement à ce qu'on a dit, a perdu les élections en juin dernier, législatives, parce qu'il n'a pas eu, il a eu la majorité absolue, certes, mais il n'a pas eu les deux tiers pour changer la constitution, parce que la laïcité le gêne en Turquie. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, arrêtez de diaboliser l'Iran. Entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mon choix, si je suis obligé, mon choix est déjà fait. Mais je ne vivrai jamais de mon propre fait sous les voilà. Mais il n'en reste pas moins que ce sont des Perses qui sont entourés d'un côté par les Arabes, de l'autre par des Pashtuns, des Tadjiks et des Ouzbeks. C'est eux qui ont peur. Ce sont des chiites dans un océan de sunnites. C'est eux qui ont peur. La République islamique iranienne, ceux qui ont couvert l'arrivée de Khomeini au pouvoir en 79, avait bien démarré. Elle a été confisquée par les religieux. Aujourd'hui, il y a quatre pouvoirs en Iran qui se détestent les uns les autres. Le président de la République, le guide qui est au-dessus des lois, il y a les Pasdaran et les fondations qui ont hérité donc de l'héritage des pavés de la vie. Il y a enfin les conservateurs qui tiennent le Parlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence entre les chiites et les sunnites, c'est que les sunnites considèrent qu'ils sont l'aboutissement du monothéisme et que celui qui veut changer parmi les sunnites de religion se retrouve obligatoirement aux yeux de l'orthodoxie en train de reculer. Donc il est apostat, il est condamnable à mort sans tribunal et sans jugement. Tandis que dans le chiisme, l'interprétation ne s'est jamais arrêtée. Contrairement au sunnisme, où toute interprétation a été figée, arrêtée à la fin du XIe siècle. Donc dans le chiisme, c'est le même effort d'interprétation qui a amené les constitutionnalistes en 1910 à Téhéran, qui ont pendu les religieux à n'en plus finir, qui a amené le Shah en 1941 et qui a amené Khomeini aujourd'hui. Khomeini a introduit un dogme qui divise actuellement le chiisme. C'est le fameux dogme du Velayat al-Faqih, c'est-à-dire, qu'on a traduit approximativement, la primauté du jurisconsulte, qui vient d'ailleurs, pardonnez-moi d'être long, mais c'est important d'expliquer ça, qui vient d'ailleurs d'un ayatollah qui est devenu une référence, une marja'iyya en arabe, et qui a été exilé par Saddam Hussein, donc c'était un Irakien, qui s'appelait Mohammad Bakr Sadr. À cette époque-là, dans les années 60, on exilait à Beyrouth. Et à Beyrouth, il a sorti deux petits livres où il disait, puisque dans le chiisme, l'imam est le guide de la communauté, à la différence du sunnisme, où l'imam n'est que, pardonnez-moi cette comparaison osée, que notre curé de base, qui lit l'évangile et qui en fait l'homélie, un commentaire. Là, il lit le Coran et il en fait un commentaire. Dans le chiisme, l'imam est le guide de la communauté. Puisqu'il est le guide de la communauté, il faut que ce soit un véritable sachant. Le prophète a dit lui-même, seuls ceux qui ont le savoir, qui procèdent au savoir, ont le droit d'interpréter. Et pour qu'il devienne réellement le guide de la communauté incontesté et incontestable, il faut qu'il devienne également juriste. Ou juriste consulte, il doit connaître depuis le 7e siècle toute la jurisprudence islamique et en même temps interpréter à partir de ce savoir. Il a publié deux livres, Notre philosophie, notre économie, et là je vous le donne en mille, où ça a été publié. À l'imprimerie catholique des Pères Jésus de Beyrouth. Voilà, c'est une bonne réponse, François. Et ça a eu beaucoup de succès. Donc, ça a divisé la communauté. L'autre référence qui vient de décéder il y a un an au Liban, c'est Cheikh Mohamed Hassan Fadlallah, qui était le guide, en quelque sorte, du Hezbollah. Et qui a renoncé à son poste en 92 parce que Nasrallah est arrivé, l'actuel secrétaire général, parce que Nasrallah partageait ce code-là, ce dogme nouveau. Mais ce dogme nouveau ne réunit qu'une minorité des chiites. Ne l'oublions pas. C'est réellement minoritaire. Alors que Nasrallah et Sistani, je vous donne un exemple, en 2004, quand les Irakiens de Najaf ont lancé la révolution contre les Américains, il y a eu pendant 3 semaines des morts et des blessés. Et tout d'un coup, l'ayatollah, le référent à Ali Sistani est sorti de son silence en disant « ça suffit, il faut coopérer avec les Américains ». Eh bien, la révolution s'est arrêtée contre les Américains. Pourquoi ? Parce que le référent a parlé. Ce qui est important aujourd'hui de savoir, c'est qu'il est bien entendu que le régime iranien lui-même, celui de et du guide, qui, rappelons-le, n'est même pas un ayatollah, Il a un grade inférieur, Hujjat al-Islam, mais bon, c'est un détail. Aujourd'hui, en Iran, le régime est pourri. Et les sanctions qu'on prend contre l'Iran, c'est le peuple qui le paye, malheureusement, qui les paye et qui en est touché. Aujourd'hui, l'Iran est contesté sur le plan du nucléaire. C'est vrai, mais ils veulent absolument prouver qu'ils sont capables de le faire. Et qui sont capables de maîtriser la technique du nucléaire. Mais ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais le produire, pour une raison très simple. Si jamais ils le produisaient, ils seraient tout au moins vitrifiés par les grandes puissances, et notamment les États-Unis, et de l'autre côté, l'Arabie Saoudite et l'Égypte recevraient immédiatement l'arme nucléaire de la part des États-Unis. Ce n'est, pour les inventeurs du jeu d'échecs que sont les Iraniens, ils ne sont pas idiots, ils ont oublié de l'être en tout cas. Il est vrai qu'on a diabolisé l'Iran comme on a diabolisé, bien entendu, Nasser dans les années 50. Cela dit, ça n'empêche pas les Américains d'être très pragmatiques. C'est avec les Iraniens qu'ils ont négocié l'an dernier leur sortie d'Irak, et ce n'est pas avec les Irakiens. Et ils ont négocié, ils ont continué à parler avec les Iraniens. Quant à Israël, et j'en termine, quant à Israël, c'est une de mes véritables craintes quand je vais en Israël, c'est d'entendre de plus en plus d'Israéliens dire, puisqu'ils ne veulent pas vivre avec nous, vivons tout seuls. Ou vivons sans eux. Autrement dit, dans l'histoire du peuple juif faite de 2000 ans d'errance, pour la première fois, nous allons assister, nous risquons d'assister à une sorte de mouvement de ghettoïsation, mais cette fois-ci, il serait volontariste. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant, mais En même temps, ça prouve à quel point, une fois de plus, la peur de l'euro, le refus de s'intégrer dans la région, peut être désastreux.
Merci. Nous allons continuer les questions. Nous allons prendre des questions qui sont dans l'autre
salle. On n'a pas répondu au danger de paix.
Ah oui, c'est exact. Alors on va.
Je dirais ça juste une seconde, en une seconde.
Une seconde, en
fait. Enfin, 10 secondes. Le danger de paix, en effet, existe. Existe pourquoi ? Parce que, pardonnez-moi de prêcher pour ma paroisse, on vient de sortir un numéro des Cahiers de l'Orient sous la direction de Didier Destremo, ici présent, à propos du commerce des armes au Moyen-Orient. C'est aussi simple que cela. Parce que ça arrêterait. J'allais dire une sorte de marché captif à la fois des armes légères, mais également cela arrêterait la justification de la présence de certaines puissances dans la région. Je vous rappelle que le golfe Persique passe par le golfe Persique 17% du pétrole mondial, 65% de nos besoins énergétiques à nous occidentaux, y compris le Japon, ça crée des convoitises.
Nous allons donner la parole à ceux qui sont dans la salle d'à côté. Il y a la salle 4 qui est complètement pleine d'auditeurs. Donc, c'est une grande première puisque, avec les travaux de l'été, nous pouvons être en contact avec eux. Donc, ils vont poser leurs questions. Ça va faire un peu des voix, un peu comme Jeanne d'Arc, mais on essaiera d'apporter des réponses. Donc, si vous m'entendez dans la salle 4, eh bien, vous avez la parole pour 3 questions courtes et brève.
Oui, vous m'entendez là ?
Alors parlez un peu
allô,
plus fort.
Allô, vous m'entendez ?
On vous entend.
Parfait.
Allô, la Terre.
Et maintenant, vous m'entendez ? Parfait. Est-ce que vous pourriez très rapidement donner aujourd'hui l'équilibre des communautés, la comparaison de l'équilibre des communautés entre le Liban et la Syrie ?
Très bien, merci. C'est la première question. Une deuxième question.
Oui, bonsoir. Depuis le début, j'entends beaucoup parler de démocratie et de révolution. Peut-être qu'il eût été un tout petit peu révolutionnaire d'inviter une femme à votre tribune.
Merci. Les femmes applaudissent, pas seulement les femmes d'ailleurs.
Mais je suis surpris, madame, que vous n'ayez pas senti en moi mes relents féminins.
Troisième question. Troisième question.
Bonjour, vous avez parlé de réveil de conflits intracommunautaires. On entend parler de pas mal de luttes d'influence entre les Saoudiens et les Qataris. Est-ce que pour vous, ça représente aussi une menace en termes de conflits dans la zone, et en particulier leur influence sur les groupements salafistes et sur les frères musulmans ?
Voilà, merci beaucoup. On voit que la technique fait des miracles. Alors, on a quelques questions. L'équilibre des communautés Syrie-Liban, peut-être, je ne sais pas, Luc.
Qu'est-ce que vous entendez par là, monsieur ? C'est-à-dire le nombre de chiites, le nombre de sunnites, le nombre de chrétiens ?
Voilà. Oui.
Oui.
Vas-y.
Écoutez, il n'y a pas eu de recensement officiel depuis un certain nombre d'années. Donc, les chiffres qu'on peut vous donner, c'est des approximations. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Les chrétiens ont dit qu'à peu près... Antoine, tu vas pouvoir...
Oui, une précision. Je ne parle pas de chiffres, je parle d'esprit et de politique d'équilibre entre les différentes communautés, autrement dit, de système d'équilibre entre les communautés.
Ah.
C'est compliqué. Hein.
C'est très simple. En Syrie, c'est la communauté alaouite qui représente entre 11 et 12% de la population qui gère le pays depuis 70. Et ça a été dit d'une manière très claire. Au Liban, le président qui a vu ses pouvoirs reniés depuis les accords de Taif intracommunautaires qui se sont déroulés en Arabie Saoudite en 89 est obligatoirement un chrétien maronite, le chef du gouvernement est obligatoirement un musulman sunnite, et le président de la chambre est obligatoirement un chiite, un musulman chiite. On a promis aux Druzes depuis 1943 la création d'un Sénat dont le président serait un Druze, mais depuis 1943, date de l'indépendance, les Druzes attendent. Voilà, en gros, je ne sais pas si tu veux ajouter
oui,
quelque
oui,
chose.
Je suis tout à fait d'accord. Système confessionnel et constitution confessionnelle au Liban, avec, je le répète, un président maronite, un premier ministre sunnite et un président de l'Assemblée chiite. En Syrie, 10% d'Alaouites qui ont le pouvoir, qui s'appuient. Alors, j'en reviens de la Syrie et je trouve que c'est un peu fort actuellement, quand on lit les papiers, de lire que tous les chrétiens sont pour Bachar al-Assad. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. J'étais avec deux jeunes journalistes chrétiennes en Syrie. Elles étaient avec les révolutionnaires syriens. Effectivement, on dit que la communauté alaouite, 10%, a besoin de la minorité chrétienne, communauté minoritaire chrétienne, 8 à 10%.
13% selon les patriarcats.
Oui, selon 15%, ça va de 6% à 15%.
Ouais, 13% selon les baptêmes, les certificats de baptême.
Donc on dit que les deux communautés doivent s'appuyer l'une sur l'autre pour contrecarrer le pouvoir sunnite. C'est difficile à vraiment cerner, mais dire que les chrétiens sont tous pour Bachar al-Assad, non.
Ça, mais comme dire que toute la population syrienne est contre Bachar al-Assad. Je crois que c'est tellement complexe, tellement imbriqué, et il y a eu des mariages mixtes aussi, ne l'oublions pas.
Bien sûr. Et là, actuellement, en Syrie, moi j'ai vu dans les... J'étais du côté de la révolution syrienne, des révolutionnaires. J'ai vu des chrétiens prendre les armes contre le régime assadiste. Donc c'est très complexe. Il y a effectivement une hiérarchie avec les évêques et autres qui vous disent « Mais pourquoi vous en voulez à Bachar al-Assad ? On était protégés, etc. » Il y a une peur de l'Irak aussi. Les chrétiens syriens ont extrêmement peur de ce qui s'est passé en Irak. Beaucoup vous disent, qu'Irakiens que j'ai rencontrés à Karakoch quand j'ai écrit le livre avec Mgr Kasmoussa, ils sont dans cette plaine de Ninive, hein, complètement concentrés. Ils vous disent, mais du temps de Saddam, on était au moins protégés. Bon, ça peut se comprendre, c'est la peur. Mais la peur ne veut pas dire l'adhésion.
Merci. Peut-être la question saoudien-qatari, le rôle des uns et des autres, peut-être des éléments de réponse avec M. Le Verrier.
Pour ce qui concerne la Syrie, on parle effectivement beaucoup du rôle des Qataris et des Saoudiens. Je crois qu'il y a beaucoup de simplifications et qui sont de ce fait-là fautives. Si on regarde le rôle du Qatar... Le Qatar, depuis le début de la révolution, enfin au début de la révolution, le Qatar était avec Bachar el-Assad, ça ne faisait aucun doute. Il a fallu un certain nombre d'événements pour que le Qatar prenne ses distances, qu'il se dispute avec les Syriens, et qu'ensuite il décide d'apporter leur soutien à la révolution, en fait qu'il laisse El Jazeera couvrir à sa manière ce qui se passait à l'intérieur de la Syrie, et que le Qatar, comme à son habitude, cherche à jouer un rôle grâce aux moyens financiers dont il dispose, et au fait qu'il est prêt à accueillir chez lui à peu près tout le monde. Donc il a soutenu l'opposition syrienne, il soutient un certain nombre de mouvements, mais à peu près de tous les côtés, puisque si vous regardez bien, les premières conférences de l'opposition qui se sont tenues là-bas, c'était plutôt des conférences dans lesquelles on trouvait ce qu'on peut appeler des laïcs, si vous voulez, alors que les frères musulmans se réunissaient plutôt avec le groupe de l'opposition de l'extérieur à Istanbul. Ensuite, on dit le Qatar aide beaucoup tous les mouvements salafistes, wahhabites, etc. Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit tout à fait vrai. Il est vrai qu'il y a des financements, mais je pense que les Qataris sont suffisamment intelligents pour financer à peu près tout le monde, tous ceux qu'ils peuvent. Que ça va vraisemblablement à un certain nombre de groupes qui ne nous plaisent pas et qui sont pour certains des salafistes. Pour des wahhabites, je suis moins sûr. Peut-être qu'on peut laisser ça à l'Arabie saoudite. Les frères musulmans, oui, c'est sans doute assez vrai. Mais ça se fait, je pense que les informations qui sont transmises par la presse sont souvent exagérées. Et de toute manière, on n'en a aucune certitude. Pour l'Arabie saoudite, leur hostilité à l'égard des frères musulmans est connue. Ils se méfient des frères musulmans parce que ce sont des politiques. Ils préfèrent soutenir des mouvements salafistes, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait une aide du gouvernement saoudien en tant que tel, mais les Saoudiens sont obligés de laisser des individus chez eux financer un certain nombre de groupes en fonction de relations qu'ils entretiennent avec eux, soit des groupes religieux, soit du fait de relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Maintenant, on peut rajouter autre chose concernant l'Arabie saoudite. Les financements de l'Arabie saoudite ne vont pas uniquement à des religieux. Par exemple, ils financent des tribus à cause des relations qui existent entre les tribus dans le nord de la Syrie et des tribus en Arabie saoudite. Ça ne se fait pas sur la base de religion, ça se fait sur la base des relations tribales entre eux.
Voilà, merci. Antoine, tu voulais ajouter un point là-dessus?
Je signale simplement que les deux seuls régimes wahhabites dans le monde, c'est le Qatar et l'Arabie saoudite. Donc ce sont deux régimes rivaux et non pas adversaires. Le Qatar, pour exister, a besoin de financer. Je signale aussi que depuis 25 ans, il a donné un refuge à celui qui passe pour être l'inspirateur, la muse des frères musulmans, Youssef El-Qaradawi, qui est en même temps le président du Conseil des Fatwas en Europe, et qui a, en Libye, a financé, on en a aujourd'hui les éléments de preuve, surtout les djihadistes du côté de Darna, là où il y a aujourd'hui un califat, et que ces financements et ces livraisons d'armes sont passés à l'ACMI, Al-Qaïda Maghreb Islamique dans le Sahel, qui, je vous le rappelle, détiennent 5 de nos compatriotes. Mais nous sommes les grands amis du Qatar, il ne faut pas l'oublier aussi, il a sauvé le PSG, il a acheté 10,67% de la Gardère, donc d'une partie de notre défense, ce qui est une atteinte à notre souveraineté, qu'on le veuille ou non. Ces GELEC, fleurons de notre industrie énergétique, est passé à 100%, et bien d'autres, sans parler des palaces parisiens et autres rachats. L'Arabie saoudite est beaucoup plus prudente, en effet. Aujourd'hui, il y a non pas une lutte, mais disons une rivalité dans la succession. Il y a un prince héritier qui n'est pas tout à fait pour qu'on aille frontalement contre les Iraniens en Syrie et ailleurs. Il y a également quelques princes du premier cercle qui conseillent au roi de se retirer, ce qui est arrivé d'ailleurs, et qui maintenant est en train de temporiser plutôt la position saoudienne vis-à-vis de tous les conflits. Bien entendu, ce que disait M. Le Verrier est très vrai, et ils aident beaucoup plus les salafistes que les frères musulmans eux-mêmes. Voilà.
Merci. Alors, on s'approche de la fin. On va prendre deux dernières questions, donc des questions très brèves, et je suis sûr que les réponses seront aussi très brèves.
J'en suis pas sûr. J'avais une question concernant, pour remettre dans le contexte la conférence du débat, enfin pour replacer le débat dans,
parler plus fort dans
une situation plus large. Oui. La question c'était, peut-on craindre ou avoir des espoirs? Donc on se place bien du côté occidental. On voit bien, nous-mêmes, Français et occidentaux, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe en Orient et qu'est-ce que ce monde arabo-musulman va provoquer chez nous? Et en comparaison avec ce qu'avait fait Jean-Paul II pour la chute du communisme et la fin de la guerre froide, qu'est-ce que la visite de Pape Jean-Paul II, quelles sont les relations que les chrétiens peuvent entretenir de part et d'autre de la Méditerranée avec nos frères chrétiens arabes là-bas? Quelles sont les influences diplomatiques ou historiques, enfin quelles perspectives on peut imaginer des relations qu'entretient l'Église avec l'Église universelle?
Très bien, je crois qu'on a bien compris la pointe de la question. Une dernière question, ça sera... Attendez, le micro... Non. Alors, je n'en doute pas, mais le micro va quand même arriver pour que tout le monde puisse entendre. Voilà, faites passer le micro, merci. Et ça sera donc une femme qui posera la dernière question. Voilà.
Je voulais poser une question qui est peut-être absolument hors sujet. On a parlé un petit peu de l'Iran. Et il me semblait qu'en Iran, il y avait quand même une situation un peu tendue, avec la population très muselée, et qu'il y a eu déjà des réactions qui ont été vite étouffées. Où en est-on actuellement? On parle de l'Iran, d'Israël, etc. Et quelle est la situation de la population par rapport aux autres pays?
Sur la première question, je ne sais pas, Luc, si tu veux dire un mot sur le message à la fois de Benoît XVI et...
Oui, moi j'avais été très frappé par la venue de Jean-Paul II en 1997. C'était juste le moment où je m'installais au Liban comme correspondant de presse de RFI et de la Croix. Et je dois dire que vraiment, ce pape, pour lequel je le crois, je le reconnais une affection particulière, merci Antoine, m'a totalement étonné. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'en 1990, à la fin de la guerre du Liban, quand Aoun s'en va, qui rend les armes, qui est la Pax Syriana, les chrétiens sont à la rue. En 1992, les chrétiens boycottent le premier vote. On parle de la fin des chrétiens, on parle de la mort des chrétiens, on parle de l'exil des chrétiens. Et Jean-Paul II convoque en 1995 un synode. Ils se réunissent, ils invitent toutes les communautés chrétiennes, orthodoxes, c'est-à-dire ou romaines, et ils produisent un document qui est l'exhortation apostolique. Et cette exhortation apostolique qui est dévoilée au moment de son voyage, en mai 1997, redonne un moral d'acier aux chrétiens. Et il a les mots justes. Il leur dit, vous êtes arabes, parlez arabe, n'ayez pas honte de votre langue, investissez-vous dans les associations, investissez-vous dans la vie politique, investissez-vous dans la vie économique. Et ce discours transcende non seulement la communauté chrétienne, lui redonne souffle, mais en même temps est totalement accepté et totalement glorifié par les communautés musulmanes en même temps. Et ça, je dois dire que ça, ce souvenir-là, moi je venais d'arriver, ce souvenir-là, c'est un souvenir vraiment extraordinaire. Je pense que l'importance des chrétiens aujourd'hui au Liban, c'est capital. Elle est capitale par le fait que, comme disait Mohamed As-Samakh, le représentant du grand mufti du Liban, moi, mon islamité, je peux la vivre avec mes coreligionnaires musulmans. Mais mon arabité, j'ai besoin de la vivre avec les chrétiens. Et beaucoup de chrétiens, d'intellectuels musulmans, au Liban, des gens comme que tu dois connaître, Antoine, comme Charara ou comme Ahmad Baydoun, me disent, mais sans Seyoud al-Maoula, me disent, mais sans les chrétiens, on est foutus. On n'existe plus.
Je voudrais te raconter ce qui s'est passé dans mon bureau à un moment donné. J'étais en train de travailler sur mon ordinateur et j'avais reçu des compatriotes libanais. Il y avait Marwan Hamadi et Andrews, il y avait... quelqu'un du Hezbollah qui était là, le porte-parole, et en Europe, et il y avait Tamam Slam, donc fils du grand ami sunnite. Et ils étaient en train de casser du sucre sur le dos des chrétiens. Puis je m'arrête de travailler en leur disant, mais putain, prenez-la la présidence, elle est ramassée, mais prenez-la. Et tout d'un coup, ils se sont tués en disant, attends, tu penses que moi, le druze, je vais accepter qu'un chiite devienne président? Il n'en est pas question. Et moi, le sunnite, je vais accepter qu'un druze devienne président, il n'en est pas question. Garde à la présidence, mais accepte qu'on te casse du sucre sur le dos. C'est tout. Et je pense que ça reflète assez ce que tu dis. Moi, ce qui m'a frappé quand Jean-Paul II est arrivé, il a dit une phrase, il y avait des chiites qui disaient, c'est notre pape aussi, c'est notre pape, n'ayez pas peur. Et Benoît XVI a repris exactement la même phrase. N'ayez pas peur. En fait, ce que disent les musulmans, plusieurs, sans les chrétiens, le Liban n'est plus qu'un pays arabe comme les autres. Et en fait, cette multitude de communautés fait que c'est un corps entier. Si on enlève une communauté, et là c'est dramatique parce que en même temps c'est plein d'espoir, et ça rejoint notre question, on s'est battu, un petit comité s'est battu pour que la synagogue qui avait été détruite à moitié dans Beyrouth soit reconstruite par une souscription nationale. Bon, on a mis du temps, mais on a réussi à le faire. Elle est reconstruite aujourd'hui. Il y a même 300 familles juives libanaises qui sont rentrées de nouveau au Liban. Donc ça aussi, c'est un signe. Alors, que faire les chrétiens? Alors, c'est vrai qu'on peut aider ces chrétiens en faisant un chèque. Ça donne bonne conscience d'échec. Ce qui est bien, c'est que les chrétiens, et ça je demande ton témoignage, ça fait longtemps que je suis parti, en tout cas de mon temps, c'est que les gens se saignaient, se serraient la ceinture pour envoyer leurs enfants à l'école.
C'est toujours Antoine.
Bon. Et ça, c'est la grande richesse des chrétiens. Que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit au Liban, dans tout le Proche-Orient. Et je crois que c'est ça ce qui est important. Il faut parrainer la scolarité ou la scolarité à l'université aussi des jeunes et avoir le contact comme un vrai parrain avec ce jeune. C'est la seule chose que les chrétiens peuvent à la fois exporter et exploiter. C'est précisément cela.
Je reprendrai mon cas personnel. En 2006, quand il y a eu la guerre du Tammuz, quand Israël nous a bombardés, ma femme et ma fille étaient en France. Et il s'est posé la question de savoir si ma femme et ma fille allaient rester en France, et si ma fille allait être scolarisée en France. Et je vous assure que ni moi, et j'ai pourtant un grand respect pour l'école républicaine laïque française, mais on était catastrophés à l'idée de voir ma fille quitter le Liban. Les écoles sont extraordinaires. C'est un des points forts du monde arabe. On a ici l'université jésuite de Saint-Joseph qui a formé, tu ne me contrediras pas Antoine, une foultitude d'élites arabes, chrétiennes comme musulmanes, comme druzes. Et dans l'école que fréquente ma fille, Ashbel, à Byblos, chez les frères maristes, toutes les familles musulmanes tentent désespérément de trouver une place pour envoyer leurs enfants là. Et c'est une des raisons pour laquelle, vraiment, les chrétiens doivent rester au Proche-Orient.
L'Iran, très vite.
La situation est toujours très tendue, madame, mais maintenant, aujourd'hui, c'est entre les gens du pouvoir, surtout. Les élections présidentielles en Iran, c'est en avril prochain. On s'en approche. Il n'y a encore aucun candidat qui s'est déclaré. Mais je fais partie de ceux qui disent que le printemps arabe a commencé à Téhéran, juste après l'élection forcée d'Ahmadinejad. Aujourd'hui, il ne peut plus se représenter, puisqu'il a fait deux mandats, et on attend de voir qui va lui succéder. Et c'est un enjeu essentiel, pas seulement pour le pays, mais pour la région aussi.
Voilà, que faut-il craindre au Proche-Orient? Que faut-il espérer? L'histoire n'est pas finie, ça c'est certain, et malgré toutes les craintes que nous avons bien noté, j'espère qu'on a perçu quand même quelques signes d'espérance pour l'avenir malgré tout. Je remercie en votre nom nos trois invités pour la richesse de leurs interventions.